Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Est-ce que c'est devenu cliché de demander à une femme comment elle gère sa vie de maman entrepreneuse? Est-ce qu'on poserait la question à un homme? Eh bien je ne le pense pas, mais au fond, peu importe. Plus on en parle et plus ça peut aider chacun et chacune à mieux appréhender le sujet vers toujours un peu plus d'inspiration et qui sait peut-être de réponse. Marie-Aubert Boyer est la fondatrice de Jolie Bump, une marque de vêtements destinée aux femmes avant, pendant et après leur grossesse. Elle est également la créatrice du podcast Nouveau Chapitre, dédié à la maternité, à la féminité et à la transmission. C'est de Marseille, enceinte, qu'elle a eu l'idée de monter sa marque et c'est quelques mois après son accouchement qu'elle décide de se lancer dans l'entrepreneuriat pour de bon. Avec elle, durant cet épisode, on aborde la gestation d'un projet lorsque l'on s'apprête à devenir maman, de la création de son entreprise comme pour reprendre le pouvoir sur une première grossesse qu'elle n'a pas très bien vécue, de la gestion d'une entreprise lorsque l'on est épouse et désormais mère de deux enfants en bas âge, du possible burn-out de la maman entrepreneuse et de l'injonction actuelle faite à l'égard des femmes, résumée en cette phrase ô combien énigmatique « on peut tout avoir ». Allez, j'arrête de parler et je laisse la parole à Marie-Aubert Boyer, fondatrice de la marque Jolie Bump.
Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis très très contente de te rencontrer, alors même si on est à distance là, parce que confinement, parce que plein de trucs, parce que tu es à Marseille, parce que pour plein de raisons, mais moi j'ai découvert ta marque il y a peu de temps, parce que je me sens concernée forcément, mais j'avais entendu ton podcast précédemment. Mm-hmm. Je vais te demander du coup si c'est possible de te présenter autant perso que pro, en nous disant ce que tu as envie de nous dire sur l'aspect personnel, hein, bien entendu.
D'accord, bien sûr. Bah, écoute, merci beaucoup Estelle pour ton invitation. Je suis hyper contente aussi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui dans ton très beau podcast. Donc,
ah, c'est gentil.
Merci beaucoup. Donc, bah, moi, je m'appelle Marie Boyer. Donc, j'ai 37 ans. J'hésite un peu parce que tu vois, je fais un blocage sur mon âge. J'ai toujours l'impression d'en avoir 32, mais j'en ai.
Oui, le même problème. Moi, je suis restée à 20. Alors, bizarrement, tu vois, moi, je suis restée à 28, tu vois, donc ça commence à dater.
Écoute, moi, je sais pas pourquoi 32, je t'assure, je réponds toujours ça spontanément alors que je sais pas pourquoi. Donc, tu vois, ouais. Je dois faire un blocage que je ne meuble ou pas, mais bon. Donc, en fait, j'en ai 37 et j'ai deux enfants, donc une petite fille qui a 5 ans et demi et un petit garçon de 1 an et demi. Mm-hmm. Et j'ai fondé il y a 4 ans la marque Jolie Bump. Donc, en fait, c'est une marque que j'ai créée pour venir accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité. Alors, tu vois, pendant toute la grossesse, mais aussi après, parce que, en fait, c'est ça qui m'a donné l'impulsion de créer la marque. Je me suis rendu compte que, ben voilà, la maternité, c'est un nouveau chapitre. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai appelé mon podcast comme ça. Mais c'est vrai, c'est un nouveau chapitre dans la vie. Il y a à la fois une nouvelle page et une forme de continuité, tu vois. Et je trouve que, même au niveau vestimentaire, ben, on change, notre corps évolue pendant la grossesse et ça continue après et on n'a pas forcément les mêmes envies. Et donc, nous, l'idée, c'est de créer des vêtements qu'on peut porter pendant toute la grossesse et après, même quand on n'est plus enceinte.
Ouais.
Et voilà. Et donc, j'ai créé cette marque il y a 4 ans et voilà, c'est une super aventure. Ouais. Je pense que c'est la plus
belle. Tu faisais quoi avant d'avoir créé Jolie Bump?
Alors moi j'ai eu un parcours un petit peu divers pour le résumer comme ça. Donc moi j'ai fait une école de commerce et Sciences Po comme études et en fait ce sont des études assez générales et sortie de ces écoles j'étais un peu perdue en fait comme pas mal de gens.
Comme beaucoup.
Ouais. sur quoi faire. Enfin voilà,
pas tout faire, mais que faire.
Exactement. Voilà. Je crois qu'en fait, tu vois, ça m'a donné des leçons
pour l'avenir. Choix, ouais.
Voilà, ça m'a donné des leçons pour l'avenir et notamment pour mes enfants. Tu vois, je sais pas si le côté être capable de tout faire, c'est toujours un service à se rendre, mais bon. Donc voilà. Donc en fait, j'ai un peu travaillé dans le conseil à Paris puisque donc j'ai fait mes études à Paris pendant 2 ans. J'ai accompagné des startups. Enfin, j'ai introduit ma boîte en bourse et j'ai accompagné des startups dans leur levée de fonds. Et ensuite...
Quand tu dis que tu as introduit ta boîte en bourse, c'était la société de...
Oui, la société de conseil qui s'est introduite au marché libre, tu sais. C'est
D'accord, ok.
Voilà, donc en fait, ça m'a pris 1 an et c'était une expérience géniale.
C'est une sacrée expérience.
C'était super, ouais. Franchement, je me suis régalée. Puis après, j'ai continué à faire un peu de conseil derrière. Et puis, en fait, moi, j'avais une entreprise familiale dans le sud. Donc, je suis originaire du sud. Mes parents avaient une entreprise. Et voilà. Et je me suis vraiment questionnée pendant un certain temps de l'opportunité de rejoindre cette entreprise. Et puis, j'ai sauté le pas. C'était en 2012. Et donc, j'ai travaillé, avant de créer Jolibum, j'ai travaillé pendant 3 ans avec mes parents et j'ai travaillé sur un gros projet d'énergie solaire, donc tu vois, tout ça n'a rien à voir.
j'adore voilà. Diversifié, ouais,
et complètement diversifié, tu vois. Donc j'ai travaillé sur un énorme projet photovoltaïque et j'ai adoré, je dirais que le point commun entre tout ça, c'était quand même une conviction sur le développement durable et penser à l'avenir, tu vois. Et moi, mes parents fabriquaient du terreau, donc on était déjà dans l'univers un peu agricole et le terreau, c'est l'art de la récupération, tu vois, par excellence, hein, puisque tu récupères des matières végétales pour en faire du terreau pour les plantes. Donc voilà. Et moi, j'ai participé en fait à un projet qui consistait à couvrir tous les espaces de stockage extérieur de l'entreprise avec une immense toiture photovoltaïque. Et donc voilà. Donc on a réussi à mettre en place ce projet qui a été difficile à mettre en place. Et voilà. Et ensuite, j'ai créé Jolibum. Et en fait, après ça, donc, je suis tombée enceinte. J'ai eu tellement de mal à m'habiller. J'ai vu un tel vide, en fait, sur la façon dont on s'adressait à la maternité, enfin, dont on parlait de la maternité, si tu veux, et des vêtements qu'on proposait aux femmes pour accompagner leur maternité, que du coup, ça m'a donné l'impulsion pour créer Jolibum.
Puis qui sont moches, hein, faut se l'avouer, parce que alors moi, je suis concernée, là, en ce moment, je peux te garantir qu'alors vraiment, à part ta marque, j'en vois pas des masses, hein. Parce que je ne citerai pas les noms de ceux qu'on connaît et qui ont pignon sur rue, mais je trouve que c'est vraiment pas rendre honneur aux femmes enceintes, mais c'est pas grave. Exactement. En tout cas, la tienne est très jolie, sinon je t'aurais pas demandé de venir dans le podcast. En même temps. Non, mais c'est vrai. Et puis t'as un super marketing et tout, donc c'est quand même agréable. Cette mise en valeur de la femme enceinte et après surtout, parce que c'est des trucs que tu peux réutiliser.
C'est ça.
T'as un système de jeans, je tiens à le signaler, qui est vachement bien. Parce que t'as un système Merci. Élastique, mais tu sais qu'il ne te couvre pas tout le ventre, et comme si t'avais une espèce de baleine à cacher. Exactement. Et donc, c'est très joli et j'incite beaucoup, toutes les femmes qui ont un futur bébé dans le ventre à regarder Jolibum, tu vois. Je te fais pas de la pub. C'est pas du placement de produit, mais c'est vraiment un conseil, quoi.
C'est gentil.
Comment tu as fait pour te lancer techniquement? C'est-à-dire que je pense qu'on a dû te poser la question 200 fois, mais moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est le déclic. Tu sais, ce truc où tu te dis, bon, j'ai plus le choix, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu vois, enfin, ce truc, c'est le sentiment d'irréversibilité.
Exactement. Oui, c'est une bonne question. Et ce que tu dis, le sentiment d'irréversibilité, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc, c'est-à-dire que moi, en fait, pendant ma grossesse, je savais que j'allais arrêter de travailler chez mes parents et que mon projet arrivait au bout. J'ai eu cette envie, en fait, ce projet qui germait dans ma tête tout en étant tout en me l'interdisant un petit peu au début, parce que franchement, je viens pas du tout de ce secteur, donc tu sais, t'es toujours dans ce moment un petit peu entre deux, de balancier, où tu te dis, tiens, je crois que j'ai une idée, et après tu te dis, mais non, ouais, c'est pas possible, voilà. Et à côté de ça, moi, je suis un peu venue à la conclusion que j'arriverais pas à trouver en fait un boulot qui me permettrait à la fois de concilier ma vie de maman. Enfin, je voyais pas le truc, quoi. Tu vois, j'avais plus envie d'être salariée. J'avais peur du plafond de verre, vraiment. J'avais peur d'être de me sentir
limitée, ouais.
Limitée, tu vois. Voilà. Et donc ma fille est née et là je me suis dit bah écoute si t'as peur de te sentir limitée, bah vas-y puis tu verras bien. Et voilà. Et donc il y a eu cette espèce de truc en me disant en fait c'est j'adore ce projet, j'adore cette idée, je vais pas trop en parler parce qu'effectivement quand tu te lances dans un projet comme ça alors que tu ne viens pas d'un ni de près ni de loin,
on va te dire mais quoi, mais t'as jamais fait de prêt-à-porter, mais tu sais même pas fabriquer un patron. On s'en mêle un peu, quoi.
C'est ça, ouais. C'est ça, tu vois. Même mon père, qui est quand même un très bon entrepreneur, m'a dit, mais apprends à coudre d'abord. Je lui ai dit, ok. Alors là, donc je garde ça pour moi, j'avance toute seule parce que, voilà. Et donc voilà. Donc j'ai vraiment senti ce truc. Et après, je sais pas, je pense que peut-être tu as déjà ressenti ça. C'est un espèce de déclic qui est un peu inexplicable. J'ai eu une forme d'évidence, tu vois. Et donc je me suis lancée dans ce projet, effectivement, comme ça, quoi. Ouais.
Est-ce que tu penses que la maternité a joué là-dessus ?
Complètement. Bon, alors déjà parce que d'une part, moi, je travaille sur ce sujet qui est la maternité, et je pense que j'aurais pas été enceinte de ma fille. Je sais pas si l'idée m'aurait vraiment traversé l'esprit, tu vois. Voilà, ouais. C'est parti d'un besoin en fait. C'était pas vraiment une idée, c'est parti vraiment d'un besoin. Ouais.
Mais c'est surtout sur le sentiment, la force, tu vois, qu'il faut pour se dire allez, j'y vais. Est-ce que tu crois que tu l'aurais eu si tu n'avais pas eu d'enfant?
Ah, non, je pense pas. Je pense que effectivement, je comprends mieux ta question. Excuse-moi si j'ai répondu un peu à côté.
Non, tu m'as exprimé, c'est moi.
Mais oui, effectivement, je pense que ça donne. En fait, moi, je crois que pendant longtemps, j'ai pas eu beaucoup confiance en moi. Tu vois, j'ai essayé de me prouver pas mal de choses. Et en fait, je crois que la maternité, ça a été aussi un moment où je me suis sentie à ma place. Où voilà, ça se passait bien, ça m'a donné énormément de force, ouais. Franchement, je pense que ça a beaucoup joué.
T'as un besoin d'accomplissement aussi, peut-être, par rapport à ton enfant, qui est différent de l'accomplissement qu'on recherche, uniquement pour soi ou à travers un prisme limité, quoi.
Tout à fait. Ouais. Déjà ça. Et ça, tu vois, c'est intéressant que t'en parles, parce que je suis pas sûre que je l'avais identifié à cette époque, mais tu vois, aujourd'hui, ma fille, elle a 5 ans et demi. Et bon, alors après, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, tu vois, quand elle raconte à ses copines que sa maman fait des vêtements, tu vois, bon, en plus, elle est très vêtements, si tu veux, voilà, je suis contente de pouvoir lui expliquer ce que je fais et de qu'elle voit ce que je fais et qu'elle soit fière aussi de moi, tu vois, donc,
c'est ça. Voilà. Est-ce que tu as le sentiment que ton environnement entrepreneurial, tu m'as dit parce que tu as des parents entrepreneurs,
oui.
Est-ce que tu crois que c'est plutôt ton école ? Est-ce que c'est ta formation ? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé techniquement ? Et là, je parle vraiment technico-technique, tu vois. Enfin, une fois qu'on allait déposer les statuts de la boîte, une fois qu'on s'est dit « Allez, c'est bon, je ne fais plus marche arrière, les dés sont jetés ». Est-ce que l'école de commerce, est-ce que Sciences Po, est-ce que ton environnement, lequel des trois t'a le plus aidé selon toi ? À avancer.
Bah écoute, tu vois, je crois que c'est un mix de tout, parce que justement, à l'époque, tu vois, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mes parents, ils étaient peut-être même désolés, tu vois, en disant mais c'est pas vrai, elle a fait des études pour finalement faire quelque chose qu'elle aurait pu faire sans. Et je crois pas en fait, tu vois. Moi, je pense que effectivement, la culture entrepreneuriale de la famille, il y a que des entrepreneurs dans ma famille, dans des secteurs très différents. Évidemment que ça aide, c'est sûr, ça fait pas tout, mais c'est un état d'esprit quand même.
Ouais, bien sûr.
Je pense que tu me contrediras pas à ce sujet.
Non, je ne contredirai pas. Non.
C'est une façon de vivre.
Une sorte de virus, malheureusement.
C'est ça.
C'est pas un virus, mais oh là, c'est pas bien de parler de virus, mais je pense que c'est une espèce de truc que t'as qui est quasi génétique.
Tout à fait. C'est une façon de vivre. Tout simplement, je pense que qu'on t'a inculqué, une certaine forme d'abnégation, tout en étant une certaine forme de liberté. Enfin, c'est voilà. Et donc, je pense que ça a joué. Mais par contre, je pense que les études que j'ai faites, déjà, ça m'a donné un peu confiance en moi aussi, je dois dire, puisque à la base, je n'étais pas partie pour faire des études comme ça. Donc, ça aide. Je pense que ça aide aussi à structurer sa pensée et aussi avoir cette espèce de polyvalence dont on parlait tout à l'heure, qui permet quand même de creuser, de pas avoir peur de creuser des sujets, même des sujets qu'on connaît pas, et hyper techniques. Et voilà. Et je pense que peut-être j'aurais été peut-être plus impressionnée par le fait de me mettre dans un secteur que je connaissais pas du tout si j'avais peut-être pas passé par là. Voilà. Donc je crois que c'est un bon mix de tout ça, quoi. Après tout, c'est, j'ai l'impression que c'est toujours une, tu sais, des étapes vers un peu ce que doit être ta vie, tu vois.
Donc, bien sûr. Mais alors, du coup, tu t'es rajouté, alors, tu me fais penser à trois de mes très bonnes amies qui ont été dans la même situation que toi, à savoir un début d'entreprise et un début de maman. Tout ça en parallèle.
Exactement.
Comment t'as fait? La question ne résume pas ça.
Alors, je dois dire que franchement, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile finalement de gérer les deux à l'origine de Jolie Bum quand la boîte n'était pas encore tout à fait, tu vois, développée et encore une petite boîte qu'aujourd'hui avec mon deuxième qui a un an et demi et où il faut, je trouve là la deuxième expérience plus difficile quand même.
D'accord.
Mais à l'époque et on en parlait juste avant, ça dépend aussi du bébé que tu as. Hein, donc moi j'avais une fille qui dormait énormément. Qui m'a laissé énormément de temps, tu vois, pour élaborer le projet déjà pendant les premiers mois où je l'avais avec moi. Ensuite, eh bien, on a trouvé un moyen de garde pour ma fille qui allait donc chez une nounou et moi, ça m'a libéré du temps évidemment pour travailler, voilà, comme une journée de travail classique, tu vois. Et voilà, je me suis organisée comme ça. Et puis finalement, en fait, je me suis rendu compte qu'en ayant des journées un petit peu moins à rallonge qu'avant, au final, tu es quand même finalement plus efficace, ouais, je pense. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression.
Donc, d'accord, enfin, je suis d'accord, je ne sais pas encore, mais en tout cas, beaucoup de femmes m'ont dit ça.
Ouais.
On me dit, une fois que ton temps est compté, donc tu as naturellement une espèce de science de l'organisation qui se déclenche,
ouais,
que tu n'avais peut-être pas avant. Ouais.
Voilà.
Et effectivement, la deux, ça fait beaucoup. Et ton mari t'aide un peu?
Oui, bien sûr, on est à deux dans le truc, mais lui aussi il a des gros horaires, tu vois, il a pas la liberté que j'ai moi, donc c'est sûr, ouais, que, enfin, on va pas se mentir, tu vois, c'est plus moi qui suis la variable d'ajustement le jour justement où la crèche ferme, où il y en a un des deux qui est malade, tu vois, c'est clair. Mais effectivement, puis moi j'ai mes parents aussi qui sont pas très très loin, ils sont pas là au quotidien, mais quand même ça m'a aidé de nombreuses fois, notamment pendant les vacances, etc. Donc il y a ça, mais c'est vrai que l'arrivée du deuxième qui dormait beaucoup moins et qui dort toujours beaucoup moins, etc. Je dois dire c'est quand même pas facile. On est quand même souvent poussé dans nos retranchements. Voilà, gérer une boîte et la maternité, c'est pas tous les jours évident, mais ça se fait.
Je t'admire. Est-ce que tu as justement, parce que finalement c'est assez récent, tes souvenirs de grossesse, c'est quoi, tu vois? Quand t'étais enceinte, comment t'as vécu les choses? Et ben, c'est intéressant de savoir comment t'as vécu les choses à intervalle de 4 ans, c'est ça? 3-4 ans?
Ouais.
4 ans. Parce que t'as eu deux grossesses, du coup, comment tu as vécu ça?
Écoute, c'est une bonne question parce que je crois que c'est aussi ça qui est à l'origine un peu de l'impulsion de Jolie Bum. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand j'y réfléchis, c'est ça, tu vois, moi, par exemple, ma première grossesse, très honnêtement, je l'ai hyper mal vécu. Pour moi, ça a été, j'ai pas été dans la team des femmes qui se sont senties épanouies pendant leur grossesse, etc. Pas vraiment. Oui. J'avais du mal à voir mon corps changer.
J'ai déjà encore cette team.
Elle existe. Moi non plus, je ne connais pas beaucoup. Mais... c'est vrai. Mais bon, après, moi, tu vois, je me sentais, les changements dans le corps, je les ai pas forcément bien vécus, tu vois. En plus, je suis grande et moi, j'ai pris quasiment 20 kilos à chaque grossesse. Et encore une fois, pas du tout parce que je mangeais beaucoup ou quoi que ce soit. Je crois que c'est une morpho de grossesse, tu vois, c'est comme ça.
Ouais.
Et donc voilà, il y avait ça. Et aussi, il y avait toute une partie de moi, tu vois, moi, je suis un peu féministe, tu vois, depuis mes 16 ans, tu vois. Ouais. donc, je sais pas pourquoi j'ai vécu cette première grossesse en me disant, mais j'ai l'impression d'être un peu réduite à ma condition de femme. Enfin, franchement, c'est vraiment ce que je ressentais. Donc, c'est des mots qui sont forts, mais c'est vrai. Et ça a été un passage difficile pour moi. Et je me suis dit, c'est la double peine. En plus, je me sens hyper mal habillée. Voilà. Et donc, je me suis dit que le vêtement serait peut-être un moyen, tu vois, pour reprendre le pouvoir sur cette grossesse.
Entièrement d'accord avec toi, ça joue énormément.
Hein. Bien sûr.
Tu te mines le matin quand tu dois t'habiller. Moi, franchement, j'ai jamais eu de problème jusqu'à présent. Et là, je me dis, mince, quoi. Je me sens pas bien dans tout. Je ne trouve pas ce qui me va. J'ai pas envie d'acheter pour autant parce que je me dis, bon, il me reste un mois et demi. Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu, et ça joue beaucoup sur le moral parce qu'il faut se dire aussi que quand t'es enceinte, t'as quand même un niveau moral, tu vois. Enfin, c'est difficile d'être sur un électrocardiogramme plat pendant 9 mois. Hein.
Tout à fait. Non, mais c'est clair. Déjà, c'est clair, t'as des changements.
Donc, la vie, c'est le moine, là, pour le coup. Ouais.
Oui, complètement. Et voilà. Et donc, du coup, tu vois, ma première grossesse, je l'ai vécue comme ça, quoi. Enfin, vraiment avec en me sentant pas forcément très bien. Bon, ce qui fait que du coup, quand ma fille est née, pour moi, ça a été l'explosion de joie. Ouais. Et j'ai eu un postpartum hyper joyeux.
Quoi. Ah ouais.
C'était vraiment. Ah ouais, franchement, moi c'était.
Oui, j'ai un peu l'impression que plus on se pose des cas de conscience pendant la grossesse et qu'on a des crises d'angoisse et des trucs, plus ça se passe finalement relativement bien après, non? Je sais pas, hein, bon, en même temps, c'est pas une science exacte, hein, mais.
C'est pas une science exacte, mais c'est vrai que j'ai tellement anticipé ouais, <c'est> les trucs. En tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. Ouais. Franchement, moi, j'ai eu un postpartum et pourtant, tu vois, des fois, l'allaitement, ça peut être pas forcément facile à mettre en place et tout, mais c'est passé de façon hyper cool pour moi.
Et alors, la deuxième grossesse?
Alors, bah, bien sûr, tout à fait différente. Hein. T'imagines le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'entre-temps, bon, bah, déjà, j'avais créé ma marque, donc j'avais plus trop de problèmes d'habillement. Hein, donc, évidemment. Donc, ça, c'était le premier point. Et j'étais habillée en jolie bonne tous les jours. Tu vois, tu vas régaler. Ouais. si tu veux, entre-temps, j'avais mon podcast. Donc, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir, tu vois, à la maternité, d'interroger plein de femmes. Et je l'ai vécu, au contraire, autant la première fois, je l'ai vécu comme une sorte, un peu d'abnégation de moi-même, une espèce de devoir féminin, tu vois. Autant la deuxième fois, je l'ai vécu comme une espèce de puissance du corps féminin, tu vois. Donc, c'était vraiment deux expériences très différentes. Je me suis sentie extrêmement bien. Pour autant, j'ai pas forcément spécialement aimé être enceinte. Clairement, c'est pas du tout ma partie préférée. Définitivement pas, tu vois. Mais par contre, j'ai été beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus, je me suis beaucoup plus étonnée, en fait, tu vois, des capacités de notre corps et des capacités des femmes aussi, surtout, d'aller jusque-là, quoi, tu vois. Donc, je l'ai vécu très, très différemment, quoi.
Excuse-moi de te poser cette question, mais moi, c'est une vraie question pour moi. Je ne comprends pas pourquoi certaines femmes prennent 20 kilos et d'autres 3, 6, je sais pas, enfin, 3 peut-être pas, mais. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a une injustice à ce niveau-là et je n'arrive pas à comprendre, en fait, comment... Est-ce que c'est systémique pour chaque grossesse? Enfin, tu vois, c'est un truc quand même hyper compliqué à gérer.
Tout à fait. Alors, j'ai pris autant, tout en faisant quand même assez attention, tu vois, donc comme quoi... En fait, et pourtant, moi, je suis assez fine de base, mais en fait, moi, j'en ai conclu, mais c'est pas du tout un avis médical, hein, c'est un avis de moi-même. Ouais. J'en ai conclu qu'on a toutes des morphologies de grossesse différentes, tu vois. De même qu'on a des morphologies de façon générale, tu vois. Moi, mon gynécologue me disait, bon, écoutez, comme je suis assez fine et qu'en plus je suis très grande, il me disait, c'est pas grave, quoi. Et puis je lui dis, de toute façon, je ne fais rien de spécial, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Donc, je crois qu'il y a une grosse injustice. Okay.
Ouais. Qu'est-ce qui t'a semblé et qu'est-ce qui te semble en fait toujours aujourd'hui en tant que femme, épouse, maman, entrepreneuse, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile en fait? Est-ce qu'on peut se dire, parce que on entend souvent, enfin tu le vois toi comme moi, on veut tout, tu vois, on veut tout, c'est à la mode en ce moment, on veut être à la fois entrepreneuse, à la fois ou sinon bosser en tant que cadre ou autre, ou être tout simplement salariée. Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on peut tout avoir?
Écoute,
moi perso, j'ai mon avis, mais je pose cette question parce que toi, pour le coup, tu es tout. Après, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à gérer finalement?
Oui, alors bon, moi, je considère pas que j'ai tout. Tu
non,
vois,
mais autant du tout. T'es marié, t'as deux enfants, t'as ta boîte. Oui, tu vois ce que je veux dire. C'est sur les cash à causer quand tu vas dans un truc administratif. On va dire que voilà, tu t'as les voilà.
C'est vrai. Moi, je trouve que ce qui est le plus dur, moi, je pense qu'on peut tout avoir. Effectivement, ça a toujours été un peu mon mantra, tu vois. C'est ce qui me pousse vachement, hein, c'est clair. Par contre, je suis pas sûre qu'on puisse avoir vraiment tout au même moment, tu vois. Et je crois que l'arrivée de mon fils, mon deuxième enfant, m'a vraiment fait réaliser ça. Je crois que, ce que je trouve le plus dur, c'est de savoir où tu places le curseur, quoi, tu vois. C'est-à-dire que où tu places le curseur, c'est finalement toi qui fais des choix, des choix qui sont parfois contraints, mais voilà. Donc comment tu organises, quel moyen de garde tu choisis, à quelle heure tu récupères tes enfants le soir, tu vois. Ce genre de choses, c'est des curseurs de la vie quotidienne, tu vois, mais qui sont toujours dans tes interrogations. Comment tu fais quand t'as ton enfant qui est malade. Tu vois, moi, l'année dernière, mon fils était donc en crèche, bébé. Mmh. Donc, les bébés en crèche, ils sont quand même souvent malades. Mmh. Donc, bah, voilà, pour moi, c'était une évidence que, voilà, que s'il est malade, c'est moi qui le garde. Donc, du coup, je ne compte plus le nombre de jours, en fait, où j'ai travaillé avec lui en porte-bébé debout sur mon ordinateur alors qu'il dormait contre moi. Mmh. Et je l'ai fait, mais c'est épuisant, tu vois. Mmh. Donc, je pense qu'en fait, c'est où tu mets le curseur, jusqu'où tu vas aussi dans le. Mmh. Et ça, c'est un sujet dont on parle peu. Et moi, j'ai des copines qui ont été confrontées à ça. Et donc, j'essaye de. Et si je peux faire passer un message, c'est vraiment aussi, il faut que les femmes, elles arrivent à se mettre des garde-fous, tu vois, et à protéger leur santé, tu vois, à tous les niveaux. Tu vois, il y a aussi tout le truc du burn-out maternel et tout. Et c'est vrai que quand tu essayes de tout avoir, tu es quand même vachement sujette à ce genre de choses. Et donc, il faut faire attention à ça et protéger un peu sa fatigue, parce qu'en fait, finalement, c'est là-dessus que tu rognes, tu vois. Et moi, je trouve que un an et demi après la naissance de mon fils, j'en parlais l'autre jour avec une amie, j'ai l'impression d'être encore en postpartum, tu vois. Alors, je sais pas quand est-ce que ça s'arrête, mais est-ce que c'est parce que justement, j'ai accumulé de la fatigue, dont j'ai du mal à me remettre, tu vois, c'est voilà.
Puis il y en a dont on parle peu, c'est les hommes. C'est-à-dire que, tiens, d'ailleurs, je ferais bien l'interview d'un homme. Je veux pas rentrer dans ta vie privée, c'est pas ça, et je te demanderai pas des questions, je te poserai pas de questions discrètes, mais c'est une question ouverte, c'est-à-dire que c'est vraiment plus de l'ordre du débat, mais comment vit un homme tout ça aussi, tu vois, quelles sont les répercussions sur ton couple, enfin, toutes ces choses-là, on sait qu'il y en a, ça c'est sûr qu'il y en a forcément, puisque, bon, voilà, il y a quelqu'un d'autre, ou plusieurs personnes d'autres, mais c'est vrai que les nouveaux papas aujourd'hui, ils ont aussi du boulot, tu vois, psychologiquement, je pense que c'est pas forcément évident de gérer une femme qui n'est pas que mère, quoi, tu vois. Tout à fait, attention, je les victimise pas, mais je veux dire, je pense qu'il y a aussi il y a un travail à faire là-dessus, quoi. Commun. Hein.
Tout à fait. Après, c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde. C'est-à-dire que je crois que c'est encore une question de curseur, tu vois. Tu vois, par exemple, nous, moi, j'ai l'impression, tu vois, de d'être toujours assez revendicatrice, tu vois, d'essayer d'expliquer, oui, là, je fais ci, là, je fais ça, etc. Moi, mon mari est pas entrepreneur, tu vois, il est salarié, il a un poste à responsabilité, donc il a, comme je te disais tout à l'heure, il y a une forme d'évidence sur le fait qu'il a moins de liberté que moi. Ça, c'est clair, il peut moins organiser son temps, mais pour autant, c'est pas une raison non plus, si tu veux, pour que je sois toujours la variable d'ajustement, même si par ailleurs j'ai beaucoup de plaisir, quand mon fils est malade, pour moi je me pose même pas la question, tu vois, c'est ça qui est très compliqué, faut essayer de trouver un curseur commun qui convient aux deux, sachant que tout le monde a l'impression de faire beaucoup d'efforts, tu vois, mais tout le monde a l'impression que l'autre ne fait pas suffisamment d'efforts, c'est ça, ouais. Voilà. Je pense que ce qu'on vit, nous, ça doit être pareil dans pas mal de couples. Après, ce qui est sûr, ce qui est certain, et ça, là-dessus, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'accompagne vraiment là-dessus, c'est que quand tu crées une boîte, quand tu es entrepreneur avec tes mamans, je pense que c'est très compliqué si tu n'as pas un conjoint qui est très supportif, tu vois, qui vraiment t'a sur le coup. Et moi, mon mari, qui a par contre pas mal de vacances et tout, quasiment toutes ses vacances, il les pose pour Jolibum, ouais. Tu vois. Il m'aide, il vient avec moi au Portugal pour un fournisseur. On a des gros shootings, là, tu vois, on était à Paris au mois d'octobre, il est venu avec moi. Il m'aide vachement dans la boîte aussi, il m'aide sur la partie financière. Ouais. Donc c'est
super mari.
Ça m'aide beaucoup. Voilà.
J'aimerais te parler un peu plus de ton aspect entrepreneurial et essayer de contextualiser un peu le truc sans toujours pareil. Hein, tu ne parles pas de choses qui te mettent mal à l'aise, mais comment t'as traversé la crise en tant qu'entrepreneuse avec Jolibum?
Écoute, nous, la crise du Covid, finalement, ça a été une période. Nous, on a la chance en fait d'être 100% en ligne, donc on n'a pas fait partie en fait des commerces qui ont été impactés. En plus, il se trouve que la crise du Covid est arrivée à un moment où moi j'avais fait un gros travail aussi sur la marque, tu vois, on a changé d'identité visuelle, on a essayé de clarifier encore plus tous les messages qu'on souhaitait faire passer avec la marque et donc voilà, donc en fait la crise on l'a pas vécue comme une crise chez nous, au contraire, ça a été plutôt une période assez porteuse et donc on a la chance d'être dans cette partie-là, en tout cas de ce bon côté aujourd'hui, tu vois, voilà. Après, ce qui a été plus dur à vivre, effectivement, ça a été le confinement.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Devoir travailler, justement, faire face à cette ce report un peu. Je pense qu'on a bénéficié de ça aussi, ce report d'achat en ligne dont on a bénéficié nous aussi. Et bien, en fait, il a fallu faire face à ça tout en devant jongler avec nos enfants pendant toute la journée, pendant 2 mois. Et en même temps, c'était une période, c'est une période que j'oublierai jamais, tu vois, qui a été une période un peu voilà. Donc en fait, la crise, c'est à la fois stressant parce qu'on est dans le même mood que tout le monde, tu vois. On est dans un mood général qui est quand même un peu morose, tu vois. Et je veux dire, je trouve qu'on fait pas exception, voilà. Mais par contre, on a la chance de pas avoir été impacté par rapport à l'entreprise. Et surtout, on a la chance de travailler sur la maternité. La maternité, c'est la vie. Et c'est l'espoir, tu vois.
Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nanas enceintes en ce moment, hein, parce qu'il va y avoir un vrai baby boom. Hein. Moi, je vois les influenceuses, là, c'est fou. Attends, c'est un truc de dingue. Moi, je suis hyper Instagram. Je suis, il y a que des filles enceintes, à commencer par Emily Ratajkowski, quand même, on peut le signaler. Emrata et Jeanne Damas, qui sont deux grosses influenceuses, à des niveaux différents, hein, parce que t'as quand même aux États-Unis et en France. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un baby boom post-confinement impressionnant. Donc, ça doit te ramener certainement des clients.
Tout à fait. Là aussi.
Et du coup, comment tu vois les choses, les évolutions Non, attends, excuse-moi. Juste avant, je voulais te parler d'un conseil que tu donnerais à des femmes qui sont dans ta situation et qui gèrent à la fois 2 enfants, une entreprise, un mari, etc. Est-ce que tu as des tips, des conseils pratiques, hyper pratiques, tu vois, sur des choses pas des trucs, j'ai envie de dire, cérébraux, tu vois, mais plutôt d'un côté pratico-pratique, parce que j'ai cru comprendre que, effectivement, tout est gestion de temps, mais est-ce que tu as des rituels, je sais pas, moi, dans ton couple, avec tes enfants, est-ce que tu as des conseils pratiques, en fait, tout simplement?
Alors, bon, moi, les conseils pratiques, ça serait déjà pour les femmes qui ont des bébés, donc qui vont pas encore à l'école, c'est de bien choisir un moyen de garde qui est adapté, qui permet d'être adapté à ses horaires de travail, à son mode de vie, quoi. Donc ça, c'est déjà un premier point. Je pense que il faut aussi se dire que, je pense qu'à un moment, si on veut justement être entrepreneur et qu'on a un bébé, je pense qu'à un moment, effectivement, faut choisir un moyen de garde, c'est-à-dire que ça, c'est compliqué de travailler avec un bébé pendant des mois et des mois, quoi. Tu vois, moi, à chaque fois, je les ai gardés pendant 5 mois et je trouve qu'après, au bout de 6 mois, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin d'attention tout le temps, mais je veux dire, ils ont besoin de stimulation, je voulais dire, et donc ça devient compliqué. Donc déjà ça, choisir un bon moyen de garde, et après, moi, le seul truc que je fais, parce que on n'a pas beaucoup de rituels, pas beaucoup de temps, mais le seul truc que je fais pour reprendre un peu mon souffle, c'est que je fais du sport, tu vois, une à deux fois par semaine. Enfin, je fais en général 1 heure de yoga et 1 heure de course par semaine. Et franchement, je ne peux pas pas le faire, en fait. C'est incompressible, au moins un des deux, tu vois. Donc c'est-à-dire à minima au moins 1 heure de sport par semaine, ce qui est pas beaucoup, mais qui reste un moment de défoulement, voilà, c'est ça. Donc ça je trouve que c'est un bon plan. Et après, quelque chose que moi j'applique pas beaucoup, mais je pense que c'est très important, c'est franchement être vraiment à l'écoute de son corps et de sa santé, parce que malgré tout, la maternité comme l'entrepreneuriat, c'est une course de fond, et on a vachement tendance à l'oublier et peut-être à sous-estimer aussi les conséquences que peut avoir un accouchement sur nos corps. Et voilà, faut s'en remettre, quoi, et pas hésiter à se mettre un peu en convalescence, entre guillemets, corporelle, à prendre soin de soi, voilà. Donc, et à prendre soin de soi, pas forcément en faisant des spas, etc. Si on n'a pas le temps, c'est pas ça, mais être à l'écoute de son corps beaucoup plus qu'avant, peut-être. Voilà.
Tu as un super podcast qui s'appelle Nouveau Chapitre, donc il parle de maternité, et puis tu interviews des femmes sur ce nouveau chapitre de leur vie.
Oui.
Moi, il m'a beaucoup touchée parce que je l'ai écouté récemment, et deux en particulier avec une jeune femme qui s'appelle Philosophie et Sexy. Attends, c'est Marie...
Oui,
Marie Robert, ouais. Et j'ai trouvé vraiment passionnant cet épisode, vraiment génial. Et indépendamment de ça, qu'est-ce que t'as apporté le podcast? Tu l'as lancé quand environ?
Alors moi, je l'ai lancé en janvier 2018. Ouais. Donc tu vois, il va avoir 2 ans. Il a 3 ans. Qu'est-ce que je dis moi? Oui, c'est ça. Janvier 2018. Oui, on va être en janvier 2021. Oui, c'est ça. Il a 3 ans.
Deux enfants, on peut dire. Voilà. C'était pas vraiment. C'était pas à la naissance de ton fils. C'était pas ta fille avait.
Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé pour le podcast, c'est que j'avais été interviewée en mai 2017 par Siam de Génération XX. Je sais pas si tu connais ce podcast. Voilà. Et en fait, c'est Siam qui m'a fait découvrir le format podcast. Moi, je connaissais pas du tout le podcast avant. Enfin, je croyais que c'était, tu sais, les replays des émissions de France Inter. Franchement, j'avais jamais entendu parler des podcasts natifs. Et en fait, à l'époque, il y avait pas de podcast sur la maternité. Et je me suis dit, quel beau moyen de libérer la parole, parce que depuis le début, moi, j'avais l'intention avec Jolie Bum d'avoir plus qu'une marque, tu vois, de vraiment de faire passer des messages et de pouvoir être utile en tout cas aux femmes, tu vois. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça. Je me suis dit, c'est un super moyen aussi de m'adresser aussi aux personnes qui me suivent, à mes clientes, d'essayer de contribuer à ma façon un peu à les aider, à les accompagner. Dans leur maternité par les vêtements, mais pas que. Et du coup, j'en ai parlé à Siam, et au départ, elle m'a beaucoup aidée en fait pendant la première année. Elle m'aidait sur toute la partie technique, etc., pour faire le podcast. Et voilà. Donc c'est ça qui m'a donné envie, tu vois. Je me suis dit, c'est génial, j'ai adoré en fait ce format. J'aime bien le format voix, tu vois. Et voilà, c'est ça qui m'a motivée.
Ça t'a apporté quoi concrètement?
Ça m'a apporté tellement de choses. Mmh. J'aurais du mal à les. Franchement, déjà, ça m'a. Moi, déjà, j'ai appris beaucoup de choses à titre personnel, tu vois. C'était des rencontres fabuleuses. Donc, c'est vrai que là, avec le Covid, on a tendance à plus enregistrer à distance, mais j'ai hâte qu'on reprenne des enregistrements en face à face. C'est quand même pareil. Des super rencontres, des super témoignages. Ça m'a beaucoup enrichi, en fait. Vraiment, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses autour de la maternité, sur plein d'expériences différentes. J'adore. J'adore faire ce
podcast.
T'as
eu une traversée du désert dans ton entreprise ou pas? Est-ce que tu estimes avoir eu un
vrai pour l'instant,
je ne veux pas parler de choses négatives, c'est juste parce que ma seconde question, c'est comment s'en sortir une fois qu'on a vécu une tempête.
Alors moi, j'ai eu la chance pour l'instant de pas vivre de tempête. Jolie-même, en fait, c'est une boîte qui évolue de façon progressive à son rythme, mais toujours sur le même rythme.
Et c'est l'actionnaire. Ça, c'est vrai que c'est vraiment. T'as pas d'associé, je crois pas.
Oui, alors enfin j'ai des associés de j'ai mon mari qui a non j'ai pas des investisseurs, mais j'ai mon mari qui est associé dans le qui a une petite part dans la boîte, donc et mes parents aussi, voilà, c'est familial, tu vois. D'accord. mais non, il y a pas d'investisseurs pour l'instant, opérationnellement, non, il y a que moi qui,
donc jusqu'à présent t'es contente, quoi, t'as une belle croissance, ça se passe
bien. Ouais, on a une belle croissance progressive. Après, tu vois, les passages à vide, ils sont plus plus perso, tu vois, c'est-à-dire que j'ai trouvé difficile de vivre un deuxième postpartum en ayant une boîte, tu vois, en s'arrêtant pas, parce que t'as pas le choix, parce que ta boîte est pas encore suffisamment structurée. Voilà, c'est plus ça que j'ai dû gérer, tu vois, des trouver des solutions pour reprendre son souffle, quoi, tu vois, voilà. Donc c'est plus perso, mais la boîte, non, elle a continué à se développer sur. J'espère que ça va durer. Je crois.
Vous êtes combien de personnes dans la structure aujourd'hui?
On est 4 maintenant. Okay. Aujourd'hui, on est 4.
Et t'as des idées de l'évolution que tu veux donner? Est-ce qu'il y a des projets qui concernent la marque dont tu peux parler? Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des trucs que t'as envie de lancer là prochainement?
Nous on va déjà, en fait, ça c'est un projet qui prend un peu plus de temps que prévu à cause du Covid, mais on va ouvrir une boutique et un showroom et des bureaux à Marseille, donc ce sera à Marseille puisque on est à Marseille, donc ça c'est trop bien, on a tellement hâte, mais ça prend pas mal de temps. Il y en a beaucoup de travaux à faire. Donc voilà. Donc ça, c'est le gros projet. Enfin, ça devait être le gros projet de la fin 2020. Donc ce sera plutôt le gros projet de 2021. Voilà. Et après, moi, les objectifs sont surtout, tu vois, en termes de développement de modèles, parce qu'on n'a pas encore, développé toutes les idées que j'ai, tu vois, et tout ce que j'aimerais avoir. Donc voilà. Donc moi, en fait, je suis plus sur un développement progressif, d'accord, tu vois, voilà, petit à petit, chaque étape en amène une autre. Donc là, franchement, oui, la grosse étape, ça sera le showroom, et puis effectivement des nouveaux modèles peut-être plus techniques encore, tu vois, qu'on va pouvoir.
Comment tu vis à Marseille? C'est sympa la vie à Marseille?
Ah bah moi je suis pas du tout objective, j'adore la vie à Marseille.
Il y a beaucoup d'amis autour de moi qui veulent migrer de Paris au sud, alors pas forcément à Marseille, mais voilà, qui en ont un peu marre de Paris et qui ont envie de vivre dans le sud.
Bah écoute, moi je suis sudiste, mais je suis pas de Marseille là-bas, je suis d'Avignon, enfin entre Avignon et Saint-Rémy-de-Provence. Moi j'aime bien la vie à Marseille parce que bon, c'est un bon compromis, je trouve. C'est à la fois une grande ville, donc tu retrouves un peu toutes les réjouissances que tu peux trouver dans des grandes villes comme Paris, tu vois. Mais c'est moins grand, tu vois. C'est plus cool. Je pense que la vie est plus cool, plus lente, tu vois. Ce qui est assez appréciable. Et surtout, après, ça, c'est le gros cliché de la sudiste. Mais franchement, j'avoue, on devient vite accro. Hein, tu vois, mon mari qui est pas du tout sudiste, il devient complètement accro au soleil. Franchement, la lumière, je sais pas comment te dire, mais ça change ton quotidien. Moi qui ai vécu 10 ans à Paris, c'est vraiment ça qui me manquait le plus, quoi. C'est la lumière, la proximité de la mer aussi. Donc, c'est une vraie source de plaisir, en fait. Tu vois, le week-end, en 5 minutes, d'un coup, t'es à la mer et tu vas profiter du soleil et tout. Et voilà.
Ça change tout. Quel est ton point de vue sur ce qu'on traverse aujourd'hui en France? Je sais, je passe toujours du coq à l'âne dans mes questions, mais qu'est-ce que tu ressens, toi, de ce qu'on a traversé? Là, ça va faire un an maintenant, à peu près. Comment tu vois le truc?
Sur le Covid, tu veux dire?
Oui, et puis sur la crise que ça implique également. Enfin, c'est une crise sanitaire et économique et finalement sociale.
Ouais.
Comment t'analyses les choses, toi?
Écoute, c'est une question qui est pas évidente parce qu'on est encore à chaud.
Ah, c'est hyper dur.
Et moi, je suis très. Non, en fait, si tu veux, moi, je suis assez. Je suis justement, c'est pour ça que je suis parfois pas toujours sur le rythme des réseaux sociaux. Tu vois, moi, je suis très. Je sais pas, ça doit être le côté Sciences Po. Tu vois, je suis toujours très en retrait. Tu vois, très dans l'analyse. Je trouve que c'est difficile de porter des analyses quand on est encore dans le vif du sujet, mais je trouve que l'impression que j'ai, si tu veux, c'est que le Covid, ça a été un accélérateur, en fait, de toute façon, de problèmes étaient présents, et donc effectivement, voilà, socialement et économiquement, voilà. Si tu veux, économiquement, j'ai l'impression que ça précipite complètement, en fait, la transition vers un digital beaucoup plus prononcé, en fait, et beaucoup plus rapide que ce qu'on nous annonçait déjà depuis des années, en disant voilà, le digital va transformer la vie des gens, etc., etc. Et là, on le voit, tu vois, nous, on est quatre, on travaille en télétravail, c'est particulier. On n'aurait jamais imaginé ça. Il y a encore quelques mois. Moi, tu vois, j'ai mon beau-frère qui est aux États-Unis, qui travaille chez YouTube. Tu vois, ça fait un an qu'il est en télétravail. Ça fait un an qu'il a pas vu ses équipes. Bon, c'est particulier, quoi. Voilà. Donc, j'ai l'impression que ça a précipité ça. Et socialement, évidemment, ça précipite des sujets extrêmement dur, parce que qui dit crise dit tu sais, c'est toujours la destruction créatrice, quoi. Donc avant la création d'un nouveau paradigme, il y a de la destruction, et ça, la destruction, ça se fait jamais sans conséquences. Et j'ai l'impression qu'on est en plein là-dedans, quoi, tu vois. C'est-à-dire que on est en plein dans une transition qui touche des secteurs de la vie sociale, et ça interroge beaucoup aussi cette crise, tu vois, sur la façon dont on, je trouve justement, c'est dans la façon dont on est, dont on meurt. Tu vois, il y a eu beaucoup ça aussi.
Ça t'a pas atteint moralement? C'est-à-dire que, je me suis toujours demandé, est-ce que les mamans sont moins atteintes moralement parce qu'elles ont moins le choix de s'accabler? Enfin, parce que les enfants, c'est des moteurs, parce que finalement, ça t'oblige à te lever le matin, à te poser moins de questions. T'es obligé d'avancer quand t'as un enfant. Donc, est-ce que ça t'a apporté une forme de joie, de gaieté, tu vois, que certaines autres personnes n'ont pas forcément, ou est-ce que tu l'as vécu comme un poids, parce que finalement, être confinée avec deux enfants en bas âge, tu vois, enfin c'est aussi je me suis toujours demandé quand les périodes sont un peu grises comme ça, enfin un peu floues et troubles et inquiétantes au sens global, est-ce qu'un enfant ça te tu vois, ça te permet de d'avancer? Enfin, tu vas pas me répondre non parce que ce serait pas seulement
non, mais
pour tes enfants,
mais en fait, franchement, je pense que
selon toi, ça apporte des ressources qu'on n'a pas quand on.
Après, je te dis pas que le confinement c'était facile. Évidemment, il y a des moments quand tu dois tout gérer. En fait, si t'es confiné mais que tu dois pas bosser, peut-être que c'est plus simple. Mais quand tu dois faire les deux, c'est vrai que c'était pas évident. Mais franchement, je crois qu'il y a un truc. Moi, en tout cas, moi qui suis très famille, tu vois, il y a un truc. En tout cas, j'ai l'impression qui ressort quand même de cette période, c'est que la famille, ça devient plus que jamais une valeur refuge, tu vois. Et les enfants, très clairement. Moi, je trouve que si ça apporte beaucoup de joie et finalement, tu vois, j'en discutais, tu vois, avec ma sœur qui elle n'a pas d'enfant, tu vois, je trouve que au contraire, parce qu'elle me disait ouais, mais c'est vrai qu'avoir des enfants en fait dans cette période si sombre, et je disais je sais pas, moi j'ai pas cette impression, ça me donne beaucoup de joie, ça c'est très égoïste et très très à titre personnel, c'est assez marrant, tu vois, quand t'as un enfant plus d'un an et demi, à la fois c'est sport, mais à la fois c'est drôle, tu vois, ça se développe, il commence à parler et tout, c'est assez marrant. Voilà, mais c'est surtout, moi je sais pas pourquoi, ça me donne vachement d'espoir en l'avenir, je me dis franchement, avec une génération comme ça, c'est sûr que les choses seront bien, tu vois, donc, je pense qu'ils ont la chance de vivre. Par contre, ils vivent à une période qui est difficile, mais je pense que quand même, on oublie vite que dans l'histoire, il y a eu des périodes qui ont été quand même peut-être plus compliquées, qu'ont vécu d'ailleurs sans doute nos grands-parents certains de nos parents, tu vois. Donc, faut relativiser aussi, tu vois. Et je trouve qu'eux, ils ont la chance de vivre à une période où, même ne serait-ce que par rapport à notre génération, on est beaucoup à l'écoute de leurs besoins, tu vois, beaucoup à l'écoute de ce qu'ils sont, en fait, en réalité. Et je pense que c'est une grande chance pour eux, tu vois. Et voilà. Donc, moi, ça me donne plutôt pas mal d'espoir, tu vois.
Je pose toujours la même question à mes invités. En fait, c'est deux questions. On en a parlé déjà de la France, enfin de ton point de vue sur ce qu'on traversait. Mais c'est un coup de cœur et un coup de gueule. Alors, le coup, t'es pas obligé d'en avoir. Le coup de cœur, c'est ce que tu veux, un livre, un film, une série, pièce de théâtre. Enfin, une pièce de théâtre est compliquée en ce moment, mais peu importe. Et puis un coup de gueule, hyper ouvert. Question ouverte.
Un coup de cœur, je sais pas pourquoi, j'ai un truc qui me vient en tête, donc je vais te le partager, c'est un coup de cœur cinématographique.
Ah non, vas-y, dis-moi, c'est quoi ?
Non, j'ai vu un film ce week-end qui m'a complètement bouleversée, qui s'appelle Adam, et qui... Tu en as entendu parler ou pas ?
Ouais, il paraît que c'est incroyable.
Eh ben écoute, je suis tombée dessus sur Canal+, tu vois, oui, parce que évidemment quand t'as des enfants, finalement le confinement ça change pas grand-chose le soir, tu vois. Donc on a pris un abonnement à Canal+ pour occuper nos soirées. Non, je rigole, parce qu'on va plus au cinéma. Et donc j'ai vu ce film sur Canal+. En fait, c'est un film avec une actrice que j'adore qui s'appelle Luna Azabal, qui est une actrice qui joue dans des films magnifiques, dans un film hyper dur là qui s'appelle Incendie. Je sais pas si tu l'as vu, mais voilà. Ouais, j'adore. Donc, en fait, Adam, ça se passe au Maroc, et en fait, c'est l'histoire d'une femme en fait qui tombe enceinte hors mariage. Donc, au Maroc, c'est juste impossible, quoi. Donc, en fait, qui erre un peu dans les rues en attendant d'accoucher et puis de reprendre sa vie, quoi. Et voilà. Et en fait, elle finit par tomber sur une femme qui elle est veuve et vit seule avec sa fille, donc qui est pâtissière. Et puis, finalement, au départ, elle était un peu réfractaire à l'idée de la recueillir. Et puis, finalement, elle commence à travailler ensemble. Elle la recueille chez elle. Et en fait, c'est une histoire mais tellement magnifique, mélange de maternité, de sororité, de ah ouais, non, mais franchement, de la force des femmes, tu vois, dans des pays où t'es encore hyper stigmatisée sur certains points, tu vois. Donc, justement, quand tu tombes enceinte hors mariage, voilà, c'est hyper dur, tu vois, ce qu'elle vit, cette femme, tu vois. Et après, il y a toute une partie, voilà, sur la maternité, tu vois. Et voilà, bon, moi, j'ai fini le film. Alors, faut pas le voir quand on est un peu triste, parce que franchement, j'ai fini le film, j'ai pleuré pendant 10 minutes. Mais c'est un film magnifique, vraiment. J'ai pleuré d'émotion, tu vois. Voilà, c'est très émouvant. Donc, le coup de cœur, n'est-ce pas? D'ailleurs, je voulais le partager sur le compte Insta de Julie Bum, donc je vais le faire. J'ai oublié de le faire, tu vois. Et coup de gueule, je sais pas si c'est coup de gueule, mais tu vois, c'est un peu dans ce thème-là aussi. Et j'en ai beaucoup parlé, moi, tu sais, avec mon mari aussi, après la naissance de mon deuxième enfant. Je trouve que justement, même si, voilà, on est dans une période où nous, les femmes, on veut tout avoir et on a raison et il le faut, etc., etc. Faut pas non plus. Et je trouve que c'est ça qui m'embête un peu aujourd'hui, c'est que je trouve que la société, en fait, dans son ensemble, que ce soit le travail et même la société, est pas adaptée, si tu veux. Enfin, refuse de voir, en fait, que, effectivement, bah, c'est nous qui portons nos enfants, c'est nous qui accouchons et que, il faut s'en remettre. Et j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je trouve qu'on n'est pas assez choyé, tu vois, dans notre postpartum. Et on parle pas suffisamment en fait de ça, quoi. C'est-à-dire que c'est la grossesse.
D'accord, il y a beaucoup d'intentions, mais au final, concrètement, il se passe pas grand-chose.
Voilà, il se passe pas grand-chose, et je pense qu'il faut qu'à la fois la famille en ait conscience et à la fois la société au sens large. Tu vois, je trouve que même quand les femmes ont un congé maternité, si tu veux, de 2 mois et demi, mais 2 mois et demi, c'est petit, quoi. Tu vois, enfin, franchement, moi,
t'es obligée de renvoyer ton enfant dans une crèche à 3 mois, ça doit t'arracher le cœur.
C'est hyper dur. Je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Peut-être que c'est une bonne chose pour certaines, mais il faudrait au moins laisser le choix, tu vois. On a des copains, tu vois, qui sont allemands. Elle a un an de congé maternité, mais vraiment, enfin, c'est un congé maternité d'un an. Alors peut-être qu'on pourrait dire un an, c'est beaucoup. On n'est peut-être pas obligé d'aller jusque là, mais 6 mois déjà, tu vois, voilà, le congé paternité, évidemment aussi, c'est un truc
qui était un peu rallongé là.
Qui a été un peu rallongé, et c'est bien, mais c'est encore pas la panacée parce que il faut quand même le dire. Et surtout quand t'as 2 enfants, franchement, le jour où, au bout de 2 semaines, tu te retrouves toute seule, tu vois, à gérer ton bébé, et voilà, c'est quand même particulier, tu vois. Donc voilà, et c'est surtout en fait le fait de laisser un peu les femmes seules dans la nature, un peu comme si, parce qu'on a accouché depuis des millénaires, bon bah voilà, voilà, c'est comme ça, t'as accouché, c'est fini.
C'est instinctif, tu vas gérer.
Voilà, et puis c'est fini, la maternité s'arrête là. Non mais pas du tout en fait, la maternité s'arrête pas là, t'as encore des variations hormonales pendant longtemps après, tu vois. Je trouve que voilà, le monde dans lequel on vit va tellement vite qu'on néglige parfois aussi les éléments un peu naturels en fait de tout ça, et surtout voilà, le post-grossesse et les débuts, les premiers pas de maman qui sont un peu négligés dans toutes les
sphères. Au Japon, je crois que c'est au Japon, on accompagne les femmes, elles ont limite le droit de prendre des vacances après, on s'occupe de leur enfant, enfin tu vois, elles se reposent et tout, parce qu'on considère que la grossesse dure 10 mois, je crois, ou 11 mois, je sais plus. Mais enfin que voilà, le mois qui suit, en fait, peut-être pas deux, mais le mois qui suit est finalement une sorte de prolongation de ta maternité, quoi.
Mais complètement, et c'est le cas en fait, c'est ce qu'on appelle le mois d'or. En plus t'as une chute d'hormones, et tu vois,
je suis en train de lire le bouquin d'ailleurs qui s'appelle le mois d'or.
Ah ben voilà, tu vois, moi je l'ai pas lu, et il faudrait que je le lise, même rétrospectivement, pour mon intérêt personnel, tu vois. Mais tu vois, en fait, je te dis ça parce que moi-même j'ai été comme ça, tu vois, après ma seconde grossesse. Bon, j'ai eu la chance pour le coup d'avoir un congé maternité, puisque justement j'étais entre deux expériences, deux activités, tu vois. Mais donc j'ai eu la chance de vivre au rythme de ma fille, et c'était génial, tu vois. Mais je me suis quand même mis la pression pour être tout de suite d'attaque, etc., etc. Et je pense que voilà, je pense qu'en fait on est trop biberonné à ça, et qu'à un moment il faut aussi qu'on reconnaisse en fait aux femmes le fait que accoucher, c'est vrai qu'on fait ça depuis des millénaires, mais par contre oui, c'est une épreuve, oui, il faut s'en remettre, oui, il faut du temps, quoi. Et voilà.
Mais ça, c'est, ouais, ça, j'ai envie de dire aussi, c'est l'acceptation de nos mères. C'est-à-dire que je vois la capacité de sacrifice qu'avaient nos mères.
Ouais.
Elle est juste dingue par rapport à ce que nous, notre génération, quand je dis nous, c'est les trentenaires, enfin, les gens qui ont, dans ces eaux-là. On a une capacité, bon, d'abord parce qu'il y a un accès à l'information qui est nettement plus large aussi. Mais c'est vrai que moi, quand je vois la capacité de sacrifice que les femmes qui ont plus de 60 ans aujourd'hui ont vécu, je me dis, mais en fait, on supporterait pas le millième de ce qu'elles ont, tu vois, accepté, finalement.
Bien sûr.
Moi, je trouve que, enfin, moi, ma mère, je considère que c'est un dinosaure, tu vois. Enfin, c'est,
ouais,
quand tu vois ce qu'elle a traversé, tout en ne se plaignant pas, tout en acceptant, en courbant les chines et tout, mais sans pour... Et ça reste une féministe, hein, c'est pas le sujet. Mais, tu vois, je me dis, mais waouh, quoi. Elles acceptaient des trucs qui, aujourd'hui, nous paraissent complètement impossibles.
impossible.
Mais c'est, oui, c'est vrai, et ma mère, c'est pareil, mais c'est aussi parce que, tu vois, moi, quand j'analyse le truc un peu, c'est aussi parce qu'on vit dans une société qui est différente, et je pense qu'on a pas les mêmes injonctions. Pour le coup, je crois que elles étaient pas soumises aux injonctions qu'on a, nous, aujourd'hui, où, bah oui, où justement, tu vois, le truc dont on parlait tout à l'heure, on se dit, voilà, on veut tout, et on a raison, et c'est vrai, et pourquoi faire des choix, tu vois, et moi, je suis aussi là-dedans, mais par contre, c'est un autre type de pression qu'on se met, un autre type d'injonction, tu vois.
Bien des femmes, hein. Il faut se le dire aussi, ça vient pas mal des femmes elles-mêmes. Ouais. Parce que les injonctions en question, c'était aussi une forme de dépendance qui n'est plus acceptée aujourd'hui, mais qui était finalement assez naturelle à l'époque, où tu te disais, bah, c'est pas grave de dépendre d'un homme, c'est pas grave finalement d'accepter des choses, etc. Bon, il y a eu la libération de la femme entre-temps, il y a eu beaucoup de prises d'indépendance à la fois financière et mentale. Voilà, il s'est passé plein de choses qui font que structurellement, la femme n'est plus la même, quoi.
C'est ça, et puis nos vies sont plus les mêmes, et effectivement, et tant mieux, tu vois. Enfin, je veux dire, justement, l'indépendance financière et tout. Moi, je vois même avec, tu vois, à titre personnel, mais des tantes, tu vois, qui se retrouvent un peu toutes seules, divorcées, tu vois, tardivement, tu vois, et qui n'ont pas travaillé, et qui se retrouvent dans des situations compliquées, tu vois. C'est souhaitable. On a cette chance-là, mais par contre, c'est vrai que c'est d'autres types d'injonctions. Et en fait, il faut essayer de trouver un peu ce juste milieu où à la fin, on permet aux femmes justement de s'épanouir dans leur cette opportunité effectivement de pouvoir être indépendante et etc etc, mais tout en respectant le fait que effectivement accoucher, donner naissance à des enfants etc, c'est une épreuve, et à la limite, tu sais, ça devrait être rétribué, tu vois, par la société, parce que franchement, c'est aussi nous qui faisons avancer les choses, tu vois. Donc
je suis bien d'accord avec toi. Ça va pas bouger, je pense. Tu veux que je te dise, j'ai un peu le feeling que ça va bouger.
Ouais,
parce que là, il y a eu pour le confinement et puis la crise économique font que la position de la femme, tout comme celle de l'homme aussi, à mon avis, va se passer des trucs étonnants.
Bah écoute, j'espère, parce que moi, tu vois, quand je vois des femmes de la génération de ma mère qui ont élevé leurs enfants, donc qui ont été mères au foyer, et donc qui n'ont pas eu de revenus, tu vois, à proprement parler, salariées, tu vois, et qui en fait, à la fin de leur vie se retrouvent après un divorce difficile, etc., sans rien, alors même qu'en fait, élever des enfants, bah c'est aussi ça rend service à tout le monde, tu vois. Donc
d'accord, j'en ai parlé avec Clara, t'écouteras si tu as l'occasion, Clara Mollet, on en parlait, ouais.
Bah écoute, ouais, j'ai pas écouté.
C'est un sujet parallèle entre un bullshit job et le fait d'élever tes enfants correctement.
Non, mais attends, je veux dire, voilà, c'est tu rends un
service. L'apport que tu as à la société, ouais.
Bah voilà, c'est ça. Donc l'apport que tu as à la société, et voilà, et je trouve qu'en fait aujourd'hui, en fait, encore, même si on fait plein de progrès et que c'est génial, on vit quand même dans une société qui reste paternaliste et un peu, tu vois, centrée sur le mode de vie des hommes. Et en fait, nous, on essaye de. En fait, l'impression que ça me donne, c'est qu'on est contrainte à essayer de s'adapter à ça, alors même que en fait on part pas à égalité, tu vois, et ce sera toujours comme ça, puisque de toute façon donc il faut essayer de trouver des solutions pour adapter la société à nos vies, et voilà, donc c'est un peu mon coup de gueule un peu général, tu vois, mais je trouve qu'il y a encore pas mal de choses à faire là-dessus, quoi, trouver une espèce de juste milieu à trouver.
D'accord. Marie, c'était super d'échanger avec toi. Merci beaucoup.
Merci.
Le temps passe vite. Prends soin de toi.
Toi aussi.
Bonne route. Belle aventure avec Jolie Bum, que je suivrai de près.
Merci.
Parce que j'aime beaucoup ta marque. Elle est vraiment chouette.
C'est trop gentil.
Et puis, bah, voilà. Bonne route et à bientôt, j'espère.
Bah oui, à bientôt. Et puis, bonne route à toi surtout, là. Et bon nouveau chapitre. Ouais. Qui va s'ouvrir bientôt. Hein.
Ouais, ouais.
Donc voilà, prends soin de toi, surtout toi, parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une période qui n'est pas évidente, j'imagine, pour être enceinte et voilà, et pour peut-être aller accoucher dans ce contexte. Donc voilà.
Voilà. Ah, écoute, je suis en train psychologiquement de me préparer à accoucher avec un masque,
ouais.
Et seule.
Ouais. J'espère que le premier confinement aura été une leçon là-dessus et qu'effectivement, tu ne vas pas être confronté à ça, mais je te souhaite plein de belles choses pour ce nouveau chapitre.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
À bientôt. Salut.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.